7-9 de France Inter. Première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
8h42, notre invité ce matin, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert. Nous sommes tous les deux heureux d'avoir tant de questions à vous poser avec Léa Salamé. Les auditeurs d'Inter ont la parole. Pierrick, bonjour.
Bonjour France Inter, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
On vous écoute.
Voilà ma question. Donc, suite à l'émission Cache Investigation, je voudrais savoir ce que vous, monsieur le ministre, vous envisagez de faire pour redonner du pouvoir de négociation aux agriculteurs face à la grande distribution. Par exemple, est-ce que vous êtes prêt à remettre en cause la LMA 2010? Est-ce que vous êtes prêt à mettre en cause de véritables organisations de producteurs? Et est-ce que vous êtes prêt à étudier la régulation? Et quand je parle de régulation, il s'agit de arrêter de produire plus qu'on ne peut vendre.
Merci Pierrick. Stéphane Travert vous répond.
Oui monsieur, question précise, réponse précise. C'est ce que nous allons porter dans la loi qui fait suite aux états généraux de l'alimentation. Travailler à l'inversion de la construction du prix, c'est-à-dire partir des prix, des coûts de production dans les exploitations sur la base d'agriculteurs qui seront regroupés en organisation de producteurs, en organisation de producteurs commerciaux, organisation de producteurs sous forme associative, de manière à pouvoir définir un prix de base sur laquelle l'organisation de producteurs, qui se verra renforcée à travers la loi, pourra négocier avec le transformateur ou le distributeur. Tout cela est destiné à faire en sorte que vous ne puissiez demain plus vendre en deçà de votre prix de votre prix de revient et de faire en sorte aussi que vous puissiez travailler sur l'élévation de la qualité et que l'on puisse déterminer avec les acteurs de la transformation ou de la distribution les volumes à travers la contractualisation sur lesquels vous allez demain pouvoir travailler avec l'ensemble de la chaîne.
François, bonjour et bienvenue sur Inter.
Bonjour, bonjour monsieur Travert.
Bonjour monsieur.
Vous posez une question. Finalement, en tant que ministre de l'Agriculture, est-ce que vous n'avez pas fait votre choix? En gros, les gros agriculteurs contre les agriculteurs bio, la grande distribution contre une agriculture raisonnée, une alimentation saine pour les consommateurs. Juste quelques exemples. Une gestion du fipronil digne du nuage de Tchernobyl qui s'arrêtait aux frontières. Le renvoi aux régions des aides à l'agriculture biologique. Le fait qu'on dise on va demander de changer les prix, mais on met aucune contrainte sur les grands groupes industriels. Bref, en gros, petits agriculteurs, consommateurs et surtout santé publique, ça passe au dernier plan. J'ai oublié juste vos positions sur le glyphosate et les néonicotinoïdes qui vont dans le même sens.
Merci pour cette question. Stéphane Travert.
Moi, je m'inscris en faux, monsieur. Moi, je ne suis pas là pour opposer les modèles agricoles. Moi, je n'oppose pas le bio à une agriculture plus productive.
C'est pas opposé, c'est favorisé. Là, hein.
Et je ne la favorise pas non plus. Il y a des modèles qui existent et moi je souhaite les faire aujourd'hui cohabiter. Moi ce qui m'importe c'est que les consommateurs puissent s'y retrouver. Les consommateurs demandent aujourd'hui à avoir plus de produits bio. Eh bien nous allons faire en sorte que demain nous ayons plus d'agriculteurs qui puissent se convertir à l'agriculture biologique. Et puis il y a ce débat avec les régions que vous avez cité. Il y a des fonds européens qui financent les maquettes régionales, les maquettes FEADER. Et lorsque les régions ont consommé toute leur enveloppe, eh bien c'est difficile d'aller chercher des cofinancements ensuite avec l'État parce que c'est sur les cofinancements que se finançait l'aide au maintien. Eh bien nous avons priorisé la conversion. Pourquoi la conversion? Parce que nous avons besoin, pour répondre à notre feuille de route, de plus d'agriculteurs en bio et de faire en sorte que nous puissions répondre à la demande.
Vous mangez bio, vous?
Oui, bien sûr.
Vous mangez que ça ou vous êtes...
Pas que ça, mais moi je mange bio bien évidemment. Moi je vis dans un territoire, vous savez, je vis à la campagne et on mange des légumes du jardin. Au ministère, nous avons un potager totalement bio, mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais nous menons la vie, la même vie que les Français.
Rien du tout, je vous pose la question.
Pas de glyphosate dans le potager du ministère ou chez vous, rien?
Je réponds pas à ça. Enfin, franchement, c'est de la caricature.
Mais non,
c'est la
pas du tout. C'est aussi. Il n'y a pas que les agriculteurs qui s'en servent.
Mais les particuliers l'utilisent.
Les particuliers
et vous avez raison.
Je vous pose
aujourd'hui, vous savez, sur le glyphosate, les agriculteurs, ils ont fait un gros travail pour diminuer. Et aujourd'hui, nous allons bâtir une feuille de route pour diminuer la prégnance des produits phytosanitaires dans les sols. Les particuliers ne pourront plus utiliser le glyphosate à partir de l'année prochaine. Et aujourd'hui, les agriculteurs, leur utilisation de ces produits est très encadrée. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons avec eux sur la trajectoire, sur les moyens de les accompagner pour ne pas non plus les mettre en difficulté. Et puis, l'objectif du président de la République, il a été rappelé, il était clair. Nous devons travailler aujourd'hui sur une période de 3 ans pour trouver des solutions. Et nous avons besoin aussi d'aller chercher des alliés. Là encore, nous ne sommes pas seuls au niveau européen. Et il y a
pourquoi
des pays.
On consomme autant en France des pesticides. Moi, je me suis toujours posé cette question. Quelle est notre passion? Pourquoi la passion française pour le pesticide?
Mais parce qu'à un moment, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, cela correspondait à ce qui était proposé pour faire en sorte que les agriculteurs aient moins de difficultés pour désherber ou pour accélérer la pousse de leur culture. Et aujourd'hui, nous le voyons bien. Les temps changent et c'est heureux. Et aujourd'hui, nous percevons les difficultés,
sur les vignes,
les dangers
sur
la vigne. Bien évidemment, il y a un bon nombre d'études qui ont été faites et qui témoignent de la dangerosité d'un certain nombre de produits. Et des gros efforts sont faits. Et je puis vous assurer que moi, je suis dans un dialogue permanent avec les agriculteurs et que nous avons affaire aujourd'hui à une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération aujourd'hui, elle veut se passer de ces produits parce que elle a vu ses aînés les utiliser. Elle a vu parfois les causes que cela pouvait porter.
Et vous buvez bio, vous buvez nature, on sait maintenant pour ce qui est de la table, pour ce qui est du verre de vin.
Le verre de vin, vous avez des vins bio qui sont d'excellente qualité.
Et du vin nature aussi à la table du ministère ou pas? Du vin nature?
Il y a du vin nature. Vous avez des produits sous signe de qualité qui n'ont pas l'étiquette bio, mais qui sont d'excellents produits. Vous avez des filières de qualité extraordinaires aujourd'hui et qui font la richesse de notre pays.
Léa?
Une question d'actualité, on a appris ce matin que l'UFC Que Choisir, l'association, portait plainte contre 9 fabricants. Ils ont trouvé des nanoparticules dans 16 produits alimentaires et cosmétiques, dans des rouges à lèvres notamment. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministre soutient cette plainte de l'UFC Que Choisir?
Mais dès lors où il y a une plainte, il y a une action judiciaire qui est en cours et moi je n'ai pas à le commenter, mais l'UFC Que Choisir fait son travail, oui.
Est-ce que ça vous inquiète, ces nanoparticules?
Ces nanoparticules, je pense qu'il faut regarder comment les choses sont mises en place et quelle est la dangerosité avérée de ces nanoparticules dans ces produits. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Moi, je m'appuie sur le droit et la science pour effectuer des réponses précises. Là, je ne les ai pas. Mais en tous les cas, l'UFC Que Choisir choisit de mener une action en justice et la justice déterminera si ou non ils ont eu raison de le faire ou pas.
Alors, énormément de réactions sur l'étiquetage, étiquetages. Christian, sur Twitter, on ne fait pas l'étiquetage en France car l'Europe ne le fait pas non plus. Mes courses, je les fais au coin de la rue, pas à Berlin. Elle a bon dos, l'Europe, comme d'habitude, hashtag comme d'habitude, as usual. Sur la viande également, autre type d'étiquetage. Je ne mangerai plus de viande tant qu'un étiquetage précis n'indiquera pas comment a été tué l'animal. Ça, c'est un mail de Marc de Nîmes. Alors, sur le nutritionnel et ensuite sur l'autre aspect.
Mais sur l'étiquetage, aujourd'hui, nous sommes sur la base du volontariat, effectivement. Nous devons accélérer nos procédures. Il y a un travail à mener avec les filières. Les discussions sont en cours, d'ailleurs.
Et pourquoi sur la base du volontariat, monsieur le ministre? Pourquoi est-ce que vous n'imposez pas les choses sur l'étiquetage?
Mais parce qu'il faut savoir comment est-ce que l'on travaille. Qu'est-ce que l'on met sur les étiquettes? Aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent savoir d'où vient leur produit. Où est-ce qu'il a été élevé?
On ne sait plus
dans
quelles
conditions il a été élevé.
Si en plein air, c'est égal à bio, c'est égal à AB, c'est égal... Il y a des tonnes maintenant d'étiquetage, on ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien.
Mais il ne faut pas mélanger non plus les choses. Ce n'est pas parce que vous faites de l'élevage en plein air que cet élevage en plein air est en bio. Le bio, c'est un cahier des charges particulier. Et cela correspond à un logo que vous pouvez apposer sur vos productions. Mais vous avez des productions de plein air qui ne sont pas bio et qui sont sous signe de qualité. D'ailleurs, sur les œufs notamment, la France peut s'enorgueillir d'être en position de force pour la qualité de ces produits. on l'a vu à travers la crise du fipronil, nous avons une filière française qui est safe. Et donc, c'est plutôt heureux. Et donc, sur l'étiquetage, nous travaillons notamment sur des expérimentations sur l'étiquetage dématérialisé. C'est-à-dire qu'avec votre smartphone aujourd'hui, lorsque vous allez faire un achat de produits, notamment sur du produit carné, eh bien, vous avez la possibilité, en flashant le code, de voir où la bête a été élevée, comment elle a été élevée, le type d'élevage, etc. Et ensuite, quel a été son circuit.
Mais sur la guerre des prix, vous passez par la loi. Vous nous avez dit que bon, c'était bien les chartes, les signatures engagées, mais vous passez par la loi. Pourquoi, sur cet autre sujet, ne pas passer à une logique de ce type ?
Mais dans la loi, il est prévu le renforcement de l'étiquetage. Nous allons travailler à faire en sorte qu'il y ait des mentions. Mais nous devons travailler avec les autres pays européens. Là encore,
c'est à cause de l'Europe, donc.
Non, ce n'est pas à cause de l'Europe. Parce que l'Europe, aujourd'hui, la France, elle n'est pas toute seule. Et la France ne peut pas décider d'un certain nombre de choses seule dans son coin sans tenir compte des autres.
C'est interdit par l'Europe d'avoir une loi là-dessus qui contraigne l'agroalimentaire.
Ce n'est pas interdit, mais ce que nous faisons, et moi ce que je fais depuis un certain nombre de mois, vous ne le voyez pas parce que peut-être que vous ne vous y intéressez pas suffisamment, mais lorsqu'il y a des conseils agricoles et pêche, où je me rendrai lundi prochain, avec un certain nombre de pays, nous parlons de ces sujets et nous essayons de trouver ensemble les modes qui nous permettront demain d'avoir un étiquetage qui puisse être source de meilleure transparence.
On va faire médecine d'ici là. Léa Salamé.
Monsieur le ministre, sur la violence dans les abattoirs, après les nombreuses vidéos de l'association L214, l'Assemblée nationale avait voté il y a un an une obligation d'installer des caméras partout dans les abattoirs. Cette loi n'a jamais été adoptée. Est-ce que vous, dans la loi que vous préparez, vous allez mettre des caméras dans les abattoirs ?
Là aussi, nous, ce que nous souhaitons faire sur les abattoirs, alors nous allons d'abord renforcer les sanctions en cas de maltraitance. Ça, c'est important. Nous allons former les vétérinaires qui accompagnent les personnels qui abattent, parce que c'est un métier très difficile. Nous allons aussi, et nous avons demandé aux professionnels des abattoirs, de mieux former les personnels sur les techniques d'abattage, parce que là aussi c'est important. Et sur la vidéo, nous allons renforcer, comme je vous le disais, les sanctions, et ces sanctions seront applicables sur des plaintes qui émaneront de contrôles officiels. Ça, c'est une chose qui est claire. De plus, nous souhaitons plutôt avoir des vétérinaires et des fonctionnaires sur le terrain plutôt que derrière des écrans à surveiller des abattoirs.
Pourquoi vous mettez
alors,
pas les caméras ?
Il y aura des démarches volontaires dans les entreprises.
Pourquoi vous n'imposez pas les caméras ? Quelle est la philosophie qui préside à ça ?
Mais parce que je viens de vous le dire, madame, moi je préfère former des vétérinaires qui vont accompagner les personnels qui abattent aujourd'hui les animaux, plutôt que de les mettre derrière un récepteur de télévision pour surveiller en permanence ce qui se passe au moment de la chaîne d'abattage.
Mais est-ce que c'est pas plus efficace la vidéo ?
Je préfère former les salariés, je préfère former les vétérinaires pour les accompagner sur les techniques d'abattage, et je préfère aussi faire en sorte que ces vétérinaires puissent se déployer sur le terrain. La vidéo, elle peut exister, c'est à l'entreprise de pouvoir l'installer, mais pour installer de la vidéo, il faut l'accord des salariés, l'accord du CHSCT. C'est une demande qu'il faut faire auprès de la CNIL. Ça demande un certain nombre d'autorisations. Et là aussi, je crois qu'il est nécessaire d'établir un dialogue. Nous souhaitons aujourd'hui que cela se fasse sur la base du volontariat. Mais nous discutons avec l'ensemble des structures qui aujourd'hui gèrent ces entreprises. Et il est important pour nous que le moment, ce métier difficile qu'est l'abattage d'animaux, mettez-vous à la place de celui qui est à ce poste toute la journée, il a besoin d'être formé, il a besoin d'être accompagné, et plutôt que d'avoir quelqu'un derrière un poste de télé, il a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés pour lui dire si le travail qu'il fait, il le fait bien, parce que la souffrance animale et parce que le bien-être animal, c'est aussi quelque chose sur lequel nous souhaitons travailler et renforcer notre vigilance.